Alors donc, on peut considérer que d'une certaine façon, Arocha est une association experte, entre guillemets, en espérance ou en espoir, ce qui est pas... ce qui est probablement un certain paradoxe dans une société où le mot environnement invoque plutôt l'inverse de l'espoir et de l'espérance. Alors, je voulais d'abord vous commencer par vous présenter Arocha. Est-ce qu'il y a moyen de faire défiler
j'essaie de mettre...
D'accord. Bon, je vais, en attendant que ça se mette en route, donc Arocha, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association, je vous invite, derrière il y a des petits flyers de présentation de l'association. C'est une association qui a été créée par un pasteur anglican qui s'appelle Peter Harris il y a 30 ans au Portugal, un peu plus de 30 ans. Donc il s'appelle Arocha parce que ça a été fondé au Portugal et Arocha ça veut dire le rocher en portugais. Et c'est une association donc, qui est maintenant présente dans 20 pays, dont la France et la Suisse. Et qui travaille donc dans le domaine de la conservation de la nature et on a cinq piliers, les 5 C, donc on est une association chrétienne, on travaille dans le domaine de la conservation de la nature, on travaille également avec les communautés locales, donc c'est notre troisième C, on travaille de façon en anglais cross-cultural, c'est-à-dire à travers les cultures. Et le cinquième, c'est en coopération avec différentes autres associations. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à faire...
Pour faire des...
Ah.
Je pense normalement.
Alors, d'ailleurs, je précise également que j'ai mis un certain nombre de mes collègues à contribution et je voudrais les remercier. Donc, David et Aline Nussbaumer, comme ça. Oui, ça a l'air de passer. Bon, ça c'est le logo donc de Arocha France et celui-ci de Arocha Suisse. Voilà, donc je vous disais. Et puis donc Arocha France, donc les 5 C dont je viens de vous parler. Puis donc on a deux centres dans le sud de la France. Donc c'est pas parce que c'est le sud de la France qu'on veut être que là où il y a du soleil. C'est pour des raisons historiques. Arocha s'est d'abord implanté dans la vallée des Baux, à côté d'Arles, donc dans le centre qui s'appelle les Tourades. Et moi, je suis directeur de l'autre centre qui a une vocation plutôt à faire de la formation et de la sensibilisation à l'environnement, donc qui s'appelle le Centre des Courmettes, dans lequel on est maintenant environ 8 permanents qui travaillons sur place et on organise un certain nombre d'activités. Je vous en parlerai plus tard. Alors, quand David m'a contacté il y a un peu plus d'un an pour participer à cette journée, il m'a dit qu'il souhaitait une intervention sur le rôle que joue l'espérance dans l'évolution de la pensée écologique. Ma réponse a été de dire que je n'étais pas sûr de pouvoir être en mesure de faire une intervention dans ce sens, car mon intuition était que l'espérance n'a pas joué un grand rôle dans le développement de l'écologie. En particulier si on prend la définition donnée sur le flyer de cette journée, qui est donc « espérance, c'est un sentiment de confiance en l'avenir » qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce qu'on désire. Or, il me semblait que c'était plus souvent la peur à laquelle répondent souvent des utopies écologiques, plus qu'une espérance à proprement parler, qui portait l'écologie. Alors, on a parlé tout à l'heure de politique, et tu as dit que l'espérance en politique... tu as parlé de l'espérance en politique, tu n'as pas cité Yannick Jadot, qui était donc le porte-parole des Verts à l'élection présidentielle jusqu'à ce qu'il renonce à se présenter en faveur de Benoît Hamon. Mais j'ai été frappé que justement, lui, un petit peu en contradiction avec ce que je dis maintenant, il utilisait, j'ai entendu plusieurs fois interviewé, où il utilisait énormément le mot espérance dans ses discours. Mais j'ai le sentiment, sans faire de procès d'intention, que c'était un peu la méthode Coué et que ce n'était pas vraiment une conviction très forte chez lui, mais plutôt des stratégies de communication qui font que justement toutes les stratégies de communication aujourd'hui disent qu'il ne faut absolument pas communiquer négativement parce que ça rebute les gens. Ça c'est très connu depuis très longtemps dans les milieux environnementaux, on a ce problème de comment est-ce qu'on communique quelque chose qui est assez négatif aux gens, et toutes les études montrent que ça semble être contre-productif. Donc j'ai proposé plutôt à David de faire à la place une présentation sur le thème de écologie et espérance en contrastant d'une part, ça c'était mon intuition au départ, sans avoir fait vraiment de recherche là-dessus, d'une part l'écologie séculière où l'espérance se porte souvent vers des technologies vertes ou vers la foi en une nature humaine qu'on pourrait améliorer pour résoudre les crises environnementales actuelles. Donc contraster ça d'une part avec d'autre part l'espérance chrétienne, en particulier l'espérance dans une terre nouvelle et des nouveaux cieux qui fait l'objet de nombreux débats théologiques actuellement auxquels on a fait allusion tout à l'heure. Alors, ce que je dois dire aussi en préambule, c'est que moi je suis historien de formation, donc le flyer de la journée était un tout petit peu peut-être... c'est vrai que j'ai écrit plusieurs livres sur l'écologie, mais ma spécialité, après ma thèse, ça a été de me spécialiser en histoire de l'environnement, qui est une sous-discipline de l'histoire qui s'intéresse aux relations entre l'homme et son environnement au cours de l'histoire. Donc mon approche de ces questions d'espérance et d'écologie, c'est d'abord été une approche principalement orientée vers un éclairage de l'origine du mouvement environnemental. Et ce qui m'est apparu, c'est que la pensée écologique s'est plutôt construite en réaction à une espérance dans le progrès technologique que nous avons d'abord examiné. Or, tant la foi dans la technologie que la recherche du salut dans l'écologie reposent sur des mauvaises conceptions de Dieu, de l'homme et de la nature, selon moi. Et j'essaierai de montrer dans une dernière partie synthétique que seule une perspective écologique chrétienne peut être vraie source d'espérance. Alors, j'étais un bon élève, hein, je dois préciser. David, d'une part, m'a posé des questions assez précises, donc je vais tâcher d'y répondre. Et deuxièmement, il m'avait aussi dit, ça serait bien que tu aies un PowerPoint. Donc je vous mets un petit peu, pour que vous puissiez suivre, le plan de mon développement. Et vous verrez que j'ai été formé à l'école française. Donc j'ai fait une bonne petite... thèse, antithèse, synthèse, mais ça tombe bien parce que c'est aussi un plan qui me paraissait à la fois logique et chronologique. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, bien sûr, tout ce que je vais dire est simplifié, etc., etc., mais ça me permettait de dégager un peu des grandes lignes m'ont permis un petit peu moi-même de mettre en ordre un certain nombre d'intuitions que j'avais de façon à vous les présenter. Alors, d'abord, la première chose donc par laquelle je voudrais commencer, c'est par le fait que au début, on va dire, on avait une société, donc avant la révolution industrielle, on avait une société agraire, dans une société dont les conditions de vie étaient assez dures, où l'espérance de vie était très réduite, et dans laquelle la foi était très présente, hein, comme dans quasiment toutes les sociétés traditionnelles qui sont confrontées à la mort et à la difficulté de la vie. L'espérance se portait beaucoup sur, à l'époque, donc dans ces sociétés traditionnelles, sur la récompense dans les cieux, encouragée par une partie de l'Église, ça a été très critiqué par les marxistes, les historiens marxistes ensuite, qui était donc l'Église qui encourageait le peuple à travailler dur, à se tenir tranquille et à avoir sa récompense dans les cieux. Les perspectives ont lentement évolué ensuite grâce aux progrès techniques et économiques à partir du 19e et du 20e siècle. Et un certain nombre d'historiens évoquent les changements fondamentaux, hein, qu'il y a une espèce de changement de paradigme en histoire qui s'opère entre le jalon qui existait avant en histoire qui était la Révolution française, qui est en train de perdre son importance relative, même en France, par rapport à l'importance de la révolution industrielle, qui est la révolution qui a permis d'entrer dans l'ère des énergies fossiles et qui a permis une transformation durable de la vie, beaucoup plus, d'une certaine façon, que le phénomène épisodique, épidermique de la révolution française. Ce progrès qui a été permis grâce à la révolution industrielle et au progrès technique a permis l'amélioration des conditions et de l'espérance de vie. Et ce progrès technique a aussi permis d'avoir à l'homme, aux sociétés notamment donc européennes, industrielles, de croire que le progrès technique allait permettre à l'homme de s'affranchir du travail et notamment grâce aux machines qui remplaçaient progressivement les hommes. Et si ça vous intéresse, j'ai écrit un ouvrage sur cette technique, sur ce sujet, donc je ne vais pas développer ici. Mais cette foi et cette croyance dans le progrès qui allait remplacer, qui allait permettre une certaine affranchissement de l'homme de plein de contraintes qui étaient les siennes au moment où il vivait dans cette société, dans ces sociétés qui ne connaissaient pas l'exploitation des énergies fossiles et de la révolution industrielle. Cet espoir a porté est devenu, hein, je crois que tu as parlé de la religion du progrès, c'est vraiment devenu une sorte de religion. À tel point que, d'ailleurs, je vous ai mis une. Donc ça c'est une photo, enfin une reproduction d'un journal de 1853. À nos sensibilités contemporaines, c'est quelque chose qui paraît comme étant extrêmement nuisible, hein, toutes ces fumées d'usine, mais à l'époque, c'était quelque chose de très positif. C'était une façon de dire, ça c'est le progrès, ça vient chez vous, ça vous amène la sécurité de l'emploi, le progrès technique, la prospérité. Et même les fumées d'usine étaient considérées à l'époque, c'était l'époque où il y avait le choléra, les épidémies de choléra, etc. La fumée d'usine était considérée comme étant un désinfectant de l'air, parce que on pensait que le choléra se transmettait, enfin d'autres maladies se transmettaient à cause des miasmes, hein, qui étaient les mauvaises odeurs, ce qui était pas complètement illogique quand on comprenait pas le fonctionnement bactériologique des transmissions des maladies. Mais en tout cas, voilà, ça c'était l'image du progrès en 1853, qui montrait l'arrivée de la révolution industrielle, l'arrivée du chemin de fer, etc., qui engendrait toute une croyance qu'on entrait dans une ère nouvelle, qui aussi a permis d'imaginer l'athéisme, hein, qui était très 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 marginal avant, mais qui, d'une certaine façon, grâce à la science, grâce au progrès, l'homme s'est imaginé qu'il n'avait plus besoin de Dieu, hein. C'est bien sûr l'époque où Nietzsche écrit « Dieu est mort », où Darwin laisse entrevoir la possibilité que peut-être l'évolution, l'univers est le fruit du hasard. Et il y a toute une certaine négation, hein. Bien sûr, je fais des énormes raccourcis, mais c'est pour montrer un petit peu la ligne de force. Également, une négation du spirituel, un accent qui est mis sur le matérialisme, qui va donc entraîner cet élan vers un affranchissement de Dieu et une concentration sur le matériel. C'est un modèle donc que j'appellerais le modèle du progrès, du développement et de la croissance, y compris de la population, hein, qui est présenté comme la panacée pour éradiquer tous les problèmes du monde. Je prendrai un exemple qui est beaucoup plus contemporain, parce que tout ça, ça a commencé avec la révolution industrielle, donc à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, mais ça a continué jusque en 1975, Jean Fourastier écrit son ouvrage Les Trente Glorieuses, où il décrit deux villages, l'un qui est pauvre, sous-développé, déprimé, sans presque rien, où les gens travaillent dur, ils n'ont presque aucun équipement, et un deuxième village qui est là au contraire moderne, où les gens sont éduqués, où on fait plus de tâches pénibles, où tout le monde est équipé de lave-linge, de téléphone, de toilette, etc. Et ça c'est le début de son ouvrage, et il montre en fait que c'est le même village, mais à 30 ans d'intervalle. C'est le village où il est né, et à 30 ans d'intervalle, avec cette idée donc, c'est super, on a vraiment fait un progrès énorme grâce à la modernité, grâce à ces 30 glorieuses. Alors aujourd'hui, cette foi, alors on a dit, je ne sais plus qui a dit, que la foi dans le progrès, elle a pris un certain nombre de coups sur la tête, hein. Il y a eu les guerres mondiales, la bombe atomique, les problèmes de pollution, etc. Mais elle continue à perdurer dans la croyance qui encore existe dans pas mal de milieux, que la technologie va trouver des solutions aux problèmes qui se posent. Par exemple, même dans le cas du changement climatique, on assiste encore, j'ai déjà vu des conférences où il y a des gens qui nous présentent très sérieusement qu'on va pouvoir pulvériser des sulfates dans l'atmosphère et que ça va produire un refroidissement artificiel de la Terre et que c'est ça qui va nous sauver du changement climatique, ce qu'on appelle la géo-ingénierie. Voilà, donc on peut dire qu'à ce premier moment, que je définirais comme étant cet élan vers le progrès qui a caractérisé le 19e siècle et une partie quand même du 20e siècle et qui continue à perdurer, même si encore une fois elle a pris des coups, ce premier élan correspond bien à la définition de l'espérance au sens du Larousse, qui est bien un sentiment de confiance en l'avenir. C'est ça qui caractérisait le 19e et une grande partie du 20e siècle. Alors évidemment, tous les chantres du progrès, hein, je vais nuancer un petit peu ce que je dis, tous les chantres du progrès n'étaient évidemment pas tous des athées, hein. Il y avait même de très nombreux chrétiens. Pareil, par exemple, pour ceux qui ont milité pour l'abolition de l'esclavage, il y avait de nombreux chrétiens. Ce qui me paraît important, par contre, c'est de bien remarquer que cette idéologie du progrès, cette foi dans le progrès technologique et le développement, n'est pas chrétienne en soi, hein. Même si elle a rétrospectivement beaucoup et souvent été accusée de l'être. Alors, en réaction, par rapport à cette idéologie et cette foi dans cette utopie, d'une certaine façon, par rapport au progrès technique et industriel, a commencé à émerger dès le 19e siècle une réaction que j'ai donc appelée la réaction écologique, qui a commencé à apparaître d'ailleurs dans les pays les plus développés, hein, d'abord en Grande-Bretagne, aux États-Unis, et ensuite, bien après, en France. C'est naturel que ça se soit développé, cette réaction, dans les pays où l'industrialisation était la plus exacerbée, la plus en avance. Et donc elle s'est développée en plusieurs vagues. D'abord, il y a eu des premières associations, organisations de protection de la nature et de l'environnement qui sont nées dans les années 1860 en Grande-Bretagne, puis aux USA, inspirées par le romantisme notamment. Et c'est là qu'on voit la création des premiers parcs naturels nationaux, par exemple aux États-Unis, en Angleterre aussi. Puis il y a eu une troisième vague, donc les deux premières vagues dans fin du 19e siècle et avant, entre les deux guerres mondiales, mais la troisième vague, qui est la vague moderne, on va dire, de l'environnementalisme, de l'écologie politique moderne, cette troisième vague est apparue à partir des années 1960, notamment suite à la prise de conscience des effets néfastes de la pollution, la peur de la guerre nucléaire et aussi, en partie, je pense, grâce à la vision pour la première fois de la Terre vue de l'espace et la fragilité de la Terre et l'impact psychologique que ça a pu avoir sur l'humanité, de se rendre compte que toute notre histoire, toute l'humanité était concentrée sur ce qui apparaissait comme extrêmement fragile et extrêmement petit finalement dans l'immensité de l'univers. Alors cette réaction écologique, elle a un côté, je dirais, prophétique et millénariste, puisque les premiers penseurs de l'écologie politique ont effectué une mise en garde sévère contre les problèmes majeurs causés par le progrès. Et on retrouve d'ailleurs pas mal de similarités avec une certaine littérature apocalyptique ou millénariste chrétienne. Dans les écrits de cette troisième vague écologiste, je ne parle pas des précédentes vagues, mais on pourrait dire à peu près la même chose. Si on prend par exemple un des premiers ouvrages publiés d'ailleurs en France, mais resté très très discret par le directeur d'institut qui s'appelait Roger Heim, qui s'appelait Destruction et protection de la nature en 1952. Donc on voit bien que le titre déjà est une mise en garde, hein, Destruction de la nature, Destruction et protection de la nature. Mais l'ouvrage qui a vraiment fait rentrer l'écologie politique dans le champ médiatique et qui a vraiment été vraiment des précurseurs de l'écologie politique, qui est considéré comme le point de naissance de l'écologie politique, c'est un ouvrage de Rachel Carson, Rachel Carson, américaine, en 1962, qui s'appelle Printemps silencieux, Silent Spring, qui a eu une grande couverture médiatique et qui prend d'ailleurs le contre-pied, sans le savoir évidemment, parce qu'elle écrit avant Jean Fourastier, mais elle évoque elle aussi, en ouverture de son ouvrage, un village qui vivait en harmonie avec la nature. Donc ça c'est son premier tableau, et ensuite il est remplacé par un deuxième village qui est saccagé, où les hommes sont atteints de plein de maladies bizarres, où les oiseaux sont morts, dont le printemps silencieux c'est parce que les oiseaux ne chantent plus, empoisonnés par les pesticides et le DDT en particulier, qui était un des insecticides qui a été ensuite interdit, qui avait été développé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle explique dans cet ouvrage qu'il s'agit d'un village fictif, mais que tous les maux qui affligent ce village sont bien réels et ont été relevés dans de nombreux endroits. C'est en quelque sorte une sorte de village synthèse qu'elle nous décrit de tous les problèmes potentiels causés par l'agriculture chimique moderne, l'écologie et la non prise en cause justement de l'écologie. Hein. Les gens sont malades parce que l'eau est polluée, etc. C'est en quelque sorte, le village qu'elle décrit, c'est l'incarnation d'une science devenue folle, à la fois via le nucléaire, hein, qui produit la bombe atomique, et aussi via la science agricole moderne, qui n'a plus aucune conscience. Un certain nombre d'ouvrages, ensuite, vont s'inscrire dans la même veine, un peu millénariste, prophétique, en visant délibérément à faire peur et à pour faire prendre conscience aux gens des dangers. Donc il y a le livre qui s'appelle La bombe paix, La bombe population de Paul Ehrlich au début des années ou à la fin des années 60, le rapport du Club de Rome en 1972, jusqu'à des ouvrages, enfin ou des, en l'occurrence un film, un documentaire, celui d'Al Gore, là, Une vérité qui dérange, en 2006, qui utilise un peu les mêmes tonalités millénaristes. Et d'ailleurs, j'avais écrit il y a quelque temps, je m'étais amusé à comparer la littérature chrétienne millénariste produite dans les mêmes années, dans les années 60. Et par contre, j'ai remarqué que, notamment plusieurs ouvrages qui ont été publiés aux États-Unis, dont l'essai le plus vendu dans les années 1970 aux États-Unis, c'est un livre qui s'appelle « The Late Great Planet Earth », qui a été traduit en français par « L'agonie de notre vieille planète » d'un certain Hal Lindsey, s'est vendu, je crois, presque 30 millions d'exemplaires. C'est l'essai le plus vendu aux États-Unis. Et je me suis amusé à regarder si par curiosité il parlait de problèmes écologiques dedans. La réponse est non. Il y a une vague allusion justement à l'ouvrage de Paul Ehrlich sur la population. Il y a une petite allusion à la pollution, mais à part ça, l'essentiel de sa problématique et de la vision apocalyptique qu'il avait, c'était le nucléaire, le risque de déflagration nucléaire. Donc on remarque que les chrétiens restent déjà à l'époque silencieux sur les questions de pollution. Alors, donc, si on résume, loin d'avoir une espérance dans le progrès, l'accent des premiers mouvements écologistes est porté plutôt sur la crainte de l'avenir, hein, et sur une certaine idéalisation du passé. En tout cas, certainement pas une confiance dans l'avenir, comme dans la définition du Larousse qu'on vient de voir. C'est plutôt un courant qui s'inscrit contre la technologie, et même parfois, on pourrait dire, anti-humaine ou anti-humaniste, puisque notamment chez Paul Ehrlich, mais d'autres, on préconise la limitation des naissances, la décroissance de la population, la contraception, voire la stérilisation forcée. On peut voir d'ailleurs, puisqu'on est en période d'élection présidentielle, une vieille affiche de 1974 qui montre un petit peu le côté... assez caricatural mais intéressant, où ce qui m'a frappé dans cette affiche, c'est que en fait le côté mauvais est beaucoup plus développé, beaucoup plus imaginé que celui finalement de l'écologie, qui est assez peu pensé finalement d'une certaine façon. Alors donc, je dirais qu'aujourd'hui, on s'inscrit dans la continuité de ces mouvements qui sont nés dans les années 60, où on peut constater, et nous, à Rochat, on le constate vraiment très fréquemment, parce qu'on côtoie les milieux écologistes au quotidien, on note une double désespérance dans les milieux écologiques aujourd'hui. D'abord parce que l'état de la planète est terrible. Hein, pratiquement tous les indicateurs sont rouges. Quand on regarde de perte de biodiversité, pollution, changement climatique, même si, pour des tas de raisons, on passe souvent aussi sous silence un certain nombre de choses qui vont mieux, parce qu'il y a aussi des choses qui vont mieux. Si on prend la pollution des villes aujourd'hui, par exemple, prenez Londres aujourd'hui, est incomparablement moins polluée que Londres il y a 60 ans. Bon, il y a des évolutions de type de pollution, mais bon, ça c'est un autre sujet un peu plus long. Donc, on va dire, il y a déjà un côté désespérant du fait que tous les indicateurs sont rouges et que, comme le dit souvent Peter Harris, qui est le pasteur fondateur d'Arocha, être écologiste ou engagé en conservation de la nature aujourd'hui, c'est un petit peu comme être au chevet d'un malade qui est sur le point de mourir. Et donc avec tout le côté pas très réjouissant que ça peut avoir. D'accompagner un malade en fin de vie, en quelque sorte. Mais il y a un deuxième désespoir qui se rajoute à ce premier désespoir, c'est le désespoir de se dire que depuis 40 ou 50 ans que des écologistes parlent et cherchent à attirer l'attention, à alerter l'opinion sur ces questions d'écologie, rien ne change. Et j'avais organisé il y a quelques années à Londres un séminaire de témoins. On avait invité tous les leaders d'organisations environnementales qui étaient en Angleterre, ça se passait en Angleterre, à la fin des années 90. Donc on avait l'ancien directeur de Greenpeace, l'ancien directeur des Amis de la Terre, l'ancien directeur du WWF, etc. Un certain nombre de... Et je me rappelle toujours, l'ancien directeur des Amis de la Terre nous avait dit... ça fait 40 ans qu'on dit les choses, tout ce qu'on a fait, ça n'a servi à rien. Et il était complètement déprimé. Et à tel point que les écologistes ne savent plus vers quel sein se vouer. Et comme le dit cet ancien conseiller d'Obama, il se tourne de plus en plus vers la nécessité d'une transformation culturelle et spirituelle, parce que les scientifiques ne savent plus comment faire. Et d'ailleurs, Gus Peth n'est pas le seul à appeler les religions à l'aide. C'est le cas aussi de Nicolas Hulot récemment, qui a appelé vraiment les religions à faire un effort pour faire passer le message de l'écologie. Je dirais qu'il y a une autre forme de désespérance qui est que c'est ce que j'appellerais le syndrome du colibri. Vous avez sans doute entendu parler de cette histoire de colibri qui est notamment portée par Pierre Rabhi. Hein. L'idée, c'est que en tant qu'habitant de la planète, on doit tous faire un petit geste pour aider le bien commun. Donc l'image, c'est un colibri, il y a un immense incendie de forêt, le colibri part... Il va verser une petite goutte d'eau, il prend dans son petit bec, le colibri c'est un tout petit oiseau comme ça, il prend un petit peu d'eau dans son bec et il va le jeter sur le feu. Et la morale de l'histoire, telle qu'elle nous l'est présentée par Pierre Rabhi et d'autres, c'est de dire « chacun doit faire sa part ». Seulement, moi personnellement, et je pense que je suis pas le seul à réagir comme ça, c'est une histoire qui m'a jamais motivé et que je trouve assez déprimant parce que au fond, on peut pas s'empêcher, enfin moi, peut-être parce que j'ai un mauvais esprit, mais je peux pas m'empêcher de me dire le colibri il va jamais réussir à éteindre le feu de forêt. Donc autant pas se fatiguer à rien faire quoi. Donc cette image, moi personnellement, je trouve ça plutôt déprimant et plutôt pas motivant. Mais c'est un peu le message, la tarte à la crème. Aujourd'hui, si vous êtes dans les milieux écologistes, on va vous sortir le colibri, il faut chacun faire sa petite part d'effort. Et moi, je trouve ça démotivant et pas du tout porteur d'espoir. Donc, pour ça, en réaction à ça, si vous voulez, il y a une multitude d'études pour comprendre pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de motivation, pourquoi il n'y a pas de réelle mobilisation écologique. Pour expliquer cette apathie en fait des êtres humains sur la planète par rapport à la crise écologique. Alors, même si ce qui domine largement et ce qui me semble dominer largement dans les milieux écologiques, c'est clairement l'absence d'espérance et le côté, je dirais, réaction par rapport à l'espérance utopique promise par le progrès technique au 19e et au 20e siècle et encore jusqu'à maintenant, il y a quand même plusieurs, je dirais, deux types d'espérance qui sont quand même sous-jacentes dans l'écologie. L'écologie n'est pas dénuée de certaines formes d'espérance. Alors, il y en a deux, je les ai un peu schématiquement, bien sûr, il y a des interpénétrations. Je dirais, il y a l'espérance écologique laïque qui est particulièrement dominante en France. Hein, ce serait une espérance écologique qui fait abstraction de Dieu, mais qui se base sur une croyance, et on en a parlé tout à l'heure aussi, qui se base sur une profonde, à mon avis, naïveté de la part des écologistes sur la possibilité de changer l'homme. Et cette naïveté vient du fait, comme je crois tu l'as dit Dominique tout à l'heure, que les marxistes en particulier, mais d'autres, ont la foi, une croyance, un espoir, une espérance même, dans le fait que l'homme, ils ne croient pas au péché originel et ils estiment que l'homme peut être amélioré. Et que c'est, pour schématiser, mais j'ai un très bon ami qui est chargé de recherche au CNRS, qui n'est pas idiot du tout, mais qui me le dit quasiment en ces termes-là. Et pour lui, c'est le capitalisme, les grandes méchantes entreprises qui sont responsables, qui ont corrompu l'âme des gentils Français, parce que c'est souvent aussi américain contre les Français. Et cet ami qui est historien de l'environnement m'expliquait par A plus B plus C que, en fait, les Français n'ont jamais voulu de la voiture, c'est les Américains qui l'auront imposé ça par des lobbies, etc. Et que, en fait, s'il n'y avait pas eu ces méchants Américains, on aurait continué à être très heureux à prendre la voiture à cheval, etc. Et c'est, je vous dis, c'est un chargé de recherche au CNRS qui m'explique ça et qui le croit parce que ça, c'est il a besoin, à mon avis, de croire à ça, sinon il ne peut plus avancer dans ses recherches. Alors, d'ailleurs, je fais une petite aparté en disant que malheureusement, ces utopies-là me rappellent étrangement les utopies communistes. On a parlé du rêve du grand soir ce matin. Et pour moi, c'est des utopies dangereuses. D'un certain côté, ça peut paraître, oh oui, bon, c'est pas bien méchant, hein, c'est juste des idées comme ça. Mais poussées à l'extrême, ces idées peuvent, on l'a vu d'ailleurs dans certains cas, au Cambodge, en République de Chine, quand on est persuadé qu'on veut faire le bien d'autrui en les transformant, on peut aboutir à la révolution culturelle en Chine ou à des massacres comme les Khmers au Cambodge. Donc ça me paraît quand même quelque chose sur lequel il faut être clair en tant que chrétien et se positionner par rapport à ce genre d'utopie et réaffirmer l'importance et notre conviction dans le fait que l'homme est pécheur et que c'est ça le problème. Dans ces utopies un petit peu laïques, je placerai aussi la décroissance qui est, à mon avis, justement, toujours basé sur le fait, je lisais hier un ouvrage sur la décroissance, la sobriété joyeuse, etc. J'y crois bien sûr en partie, mais j'ai des gros doutes sur le fait que la société française, ou l'être humain en général, est prêt à accepter la décroissance. Un petit peu de décroissance éventuellement, mais bon. Voilà. Bref, où on a parlé aussi de Hans Jonas ce matin, hein, qui effectivement a écrit son principe de responsabilité en réponse au principe espérance d'Ernst Bloch, mais qui croit lui justement que, d'ailleurs il le dit dans son ouvrage, que les 10 commandements sont dépassés et que maintenant il faut que l'homme aille un cran plus loin dans sa responsabilité, dans son éthique. Mais ce qui est pour moi une négation du gros problème insurmontable du péché de l'homme. C'est-à-dire qu'on croit que l'homme va pouvoir devenir plus responsable, mais en réalité, on oublie que la Bible et toute la Bible nous montre que l'homme, il n'a pas pu accomplir, il n'a pas pu respecter la loi. Alors, vouloir aller au-delà comme Hans Jonas le fait, c'est clairement utopique et une espérance vouée à l'échec. Voilà. Alors, d'ailleurs, je dois dire aussi que y a cette espérance se retrouve aussi souvent dans les slogans de manifestations. J'ai manifesté à plusieurs reprises contre, par exemple, le changement climatique, où je défilais derrière des bannières. Enfin, c'était pas moi qui l'avais choisi, mais le fait dans la manifestation, il y avait souvent des gens, c'était en Angleterre, à l'époque où je participais à ces manifestations, des grandes banderoles « Save the planet ». Eh ben, c'est très clair que je travaille pour Arocha, j'essaie d'aider à la conservation, à la préservation de la création de Dieu, mais j'ai jamais la prétention ni l'espérance de sauver la planète. Et c'est ça qui fait qu'on a un avantage, je dirais, c'est que j'ai jamais mis cette espérance-là. Je sais que c'est Jésus-Christ qui nous sauve, qui sauve la planète, et c'est pas nous. Et ça change beaucoup les perspectives. Alors, deuxième type d'espérance écologique, qui cette fois est plutôt présente peut-être dans les pays anglo-saxons et moins en France, mais ça c'est la spécificité française très déchristianisée, très laïque, mais qui est quand même bien présente en France aussi, mais de façon peut-être plus masquée, c'est la croyance dans dans toutes ces spiritualités de type New Age, et en particulier dans l'entrée dans ce que les gens appelaient dans les années, à la fin des années 80-90, l'entrée dans l'ère du Verseau, hein, qui était censé on était censé changer d'air astral, je ne sais pas si c'est le terme qui convient, pour rentrer donc quitter l'ère du Poisson, hein, qui était symbole des chrétiens, donc l'ère du christianisme judéo-chrétien rétrograde. Et assimilé rapidement d'ailleurs avec cette idéologie du progrès, alors que j'ai dit que c'était tout à fait débattable, que ce n'est pas, à mon avis, du tout le cas. Mais en tout cas, donc, en réaction justement à cette idéologie du progrès matérialiste et parfois athée, les écologistes ont voulu réinjecter de la spiritualité, d'autant plus donc que le christianisme était jugé comme étant la raison de la crise écologique, donc on a voulu réinjecter de la spiritualité, mais pas de la spiritualité chrétienne, même si souvent c'était un grand mélange de différentes choses qui apparaissent dans le New Age. Alors on pourrait dire beaucoup de choses sur le christianisme et l'impact du christianisme sur l'environnement, et pour dire en deux mots, moi je pense que c'est un de mes profs, qui est un des spécialistes reconnus mondialement de l'histoire de l'environnement, l'écrivait lui-même, que le christianisme ne peut pas être accusé d'avoir détruit l'environnement plus que n'importe quelle autre religion. Il suffit de comparer le bilan écologique de l'Inde, de l'hindouisme, ou du Japon même, ou de la Thaïlande, pour voir qu'il n'y a pas eu de protection de l'environnement beaucoup plus affirmée, voire moins affirmée dans ces pays que dans les pays d'Europe ou d'États-Unis de culture chrétienne. Voilà. En tout cas, pour revenir à cette question de la spiritualité, j'ai fait un petit peu quelques recherches parce que j'avais lu il y a quelques temps un certain nombre d'indices qui me laissaient un peu soupçonner que dans les débuts des mouvements écologiques, il y a eu beaucoup de spiritualité, voire de spiritisme et d'occultisme. Alors, je fais un petit aparté, j'ai grandi dans un milieu évangélique où mon grand-père était farouchement anti-écologiste, pour plein de raisons théologiques, la croyance dans le fait que de toute façon la Terre allait être détruite et que donc ça ne servait à rien de vouloir la préserver, mais aussi parce qu'il voyait du New Age dans tous les mouvements écologiques. Alors moi ça m'irritait profondément quand j'étais adolescent et jeune adulte, parce que je trouvais qu'il exagérait, etc. Voilà, il voyait toujours le mal partout. Mais je dois dire que j'ai retrouvé effectivement dans les origines de plein de ce qui fait le cœur du mouvement écologique actuellement, pas mal de traces quand même de choses un peu louches, notamment par exemple si on prend l'exemple de l'agriculture biologique, les pionniers de l'agriculture biologique, ça a été d'abord Rudolf Steiner en Allemagne, donc on sait qu'il était un théosophe et qui a pratiqué le spiritisme de façon tout à fait ouverte, hein. En Angleterre, la pionnière du mouvement, la créatrice de ce qui est devenu la Soil Association, Lady Eva Balfour, était elle-même spirite, elle le pratiquait de façon extrêmement ouverte, pareil. Dans le, si on regarde l'histoire du végétarianisme, on voit aussi qu'il y a énormément d'influence des religions orientales, de l'hindouisme en particulier, et d'un certain nombre d'hérésies chrétiennes qui ont été à l'origine de ce mouvement. Si on regarde l'homéopathie, des origines assez douteuses, pour rester poli. Une des plus grandes marques d'homéopathie aujourd'hui s'appelle Velleda. Moi, je sais que j'ai des crèmes Velleda que j'utilisais pour mes enfants. J'ai réalisé récemment que c'était le nom d'une déesse païenne germanique et que donc c'est dans le grand retour à la nature. C'est Rudolf Steiner d'ailleurs qui a démarré ça, ces laboratoires Velleda, et qui était complètement dans le retour aux divinités païennes germaniques de l'époque. Enfin, c'était le grand retour à cette adoration des divinités germaniques. Si on regarde du côté de l'hypothèse Gaïa de James Lovelock, que certains d'entre vous connaissent, donc c'est une théorie selon laquelle la Terre est un être vivant, comme un petit peu un corps humain, qui réagirait aux différentes agressions dont elle serait victime. Et je me rappelle avoir fait du stop dans les années 1995-98 par là sur l'île de Vancouver, où j'étais tombé sur un farfelu New Age qui m'avait pris en stop, qui m'avait dit « Ah oui, la Terre est en train de réagir aux agressions des hommes et va se débarrasser de l'être humain comme d'un virus. » C'était, si vous avez vu le film Matrix, il y a une tirade là-dessus sur ce thème qui montre que l'humanité serait la plaie de la planète et que la planète, par le biais du changement climatique ou par le biais d'autres réactions, va se débarrasser de l'être humain qui en fait est en train de l'agresser. Voilà. De la même façon qu'on a des anticorps qui se débarrassent des virus, ben nous on serait le virus de la planète. Et alors l'ironie, moi qui étais très critique de mon grand-père et de ses idées un peu rétrogrades sur le question, c'est que j'ai pris la direction donc d'un centre dans le sud de la France à côté de Nice, où il se trouve qu'on va fêter le 100e anniversaire l'année prochaine de ce centre, et j'ai commencé à faire des recherches dans l'histoire de ce centre, qui jusqu'à l'arrivée d'Arocha était un centre qui était vraiment à fond dans le New Age. Ça, donc je le savais, mais ce que j'ai découvert, c'est que dès les années 1920, il y avait des pratiques spirites dans ce centre, de l'occultisme qui s'est même traduit par un meurtre en 1926. Enfin, il y a eu tout un passé très lourd, et que je me rends compte à quel point tout ça est vraiment très interconnecté. Bon, alors on voit que historiquement et idéologiquement, le mouvement qui préconisant l'écologie s'est construit en opposition aux tenants de la croissance, qui unissaient capitalisme et communisme dans un même paradigme. Et ces deux mouvements, dont l'un est quand même largement dominant par rapport au deuxième, le mouvement de la croissance, etc., est nettement dominant par rapport au paradigme écologique, se sont construits en opposition et ont cristallisé ce que j'appelle deux packs idéologiques qui fonctionnent un peu en cercle fermé. Alors, ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte en fréquentant un petit peu, parce que mon parcours m'a amené justement à baigner beaucoup dans les milieux écologiques, à me rendre compte qu'il y avait vraiment un petit peu une réponse du berger à la bergère. Mon grand-père, qui était dans l'opposition, dans le schéma idéologique typique celui-là, qui est le pack, je dirais, évangélique traditionnel, on voit que ça, c'est des cercles, si vous voulez, qui fonctionnent un petit peu en vase clos, et que si on adopte une ou l'autre de ces idées, on a beaucoup de chances d'être dans le pack complet. Ça se voit même dans la façon de s'habiller. Souvent, en voyant des gens qui arrivent dans notre centre, avec la façon dont ils s'habillent, je suis à peu près directement capable de les ranger dans une ou l'autre des packs. Alors bien sûr, c'est des caricatures et il y a des différences suivant. On n'est heureusement pas tous d'un bloc, mais je me rends compte que vraiment ça fonctionne souvent comme ça. Alors typiquement, ça, je dirais, c'est le pack évangélique. Et à côté de ça, dans ce pack-là, on a typiquement, ça m'arrive de faire des présentations dans des églises protestantes type Protestantes Unies. Et bien sûr, il y a des variétés d'églises au sein de l'EPUF, mais typiquement dans des paroisses très libérales de l'EPUF, on va retrouver ce type de package. En opposition frontale avec le package numéro 1. Hein. Alors, je pourrais revenir un petit peu plus là-dessus, mais je dois conclure un petit peu plus rapidement pour parler cette fois. Donc, pour moi, si vous voulez, les deux packages, hein, les deux packs et les deux tendances historiques sont toutes les deux sont pas chrétiennes dans le sens où ce n'est pas l'espérance du christianisme. On ne retrouve l'espérance du christianisme ni dans l'une ni dans l'autre. Pour moi, le pack numéro 1 n'est pas plus chrétien que le pack 2. Hein. Il y a un certain nombre de problèmes, notamment par la croyance dans le progrès engendre aussi des problèmes matériels majeurs, pollution, dérèglement climatique, de justice sociale. Alors, du coup, en synthèse, je voudrais proposer qu'est-ce que l'espérance chrétienne en matière d'écologie. Donc, la première chose, c'est de remarquer que adopter un certain nombre de critiques des deux, des deux packs, et adopter notamment une attitude critique. Puisque dans les milieux évangéliques, souvent, on a une adoption du pack numéro 1. Hein, adopter un certain nombre des critiques du pack numéro 2, écologiste, c'est utile, à mon sens, parce que le pack numéro 1 est très déséquilibré. Hein, il produit un certain nombre de problèmes qu'on vient d'évoquer. Et donc, il y a d'abord un certain nombre de bénéfices pour les chrétiens qui s'ouvrent à l'écologie, de se rendre compte qu'il y a un certain nombre de choses qui sont gagnant-gagnant. Pour prendre un exemple idiot, si je prends ma voiture pour aller au travail et que je change en prenant mon vélo ou en allant à pied, il y aura des bénéfices qui n'ont rien à voir avec ma foi, mais qui seront que je vais être en meilleure santé, j'ai plus de susceptibilité de pouvoir parler avec des gens le long du chemin, donc de créer du lien social. Et puis mon porte-monnaie aussi va mieux s'en sentir, donc peut-être j'aurai moins besoin de travailler parce que j'aurai pris plus il y a toute une série de bénéfices qui découlent d'adopter le pack écologique. Alors ensuite, pourquoi agir en tant que chrétien dans le domaine de l'environnement ? Il y a l'espérance que ceux qui font la volonté du Père seront récompensés. C'est-à-dire l'obéissance, en quelque sorte, avant l'espérance. On s'occupe de la création car on cherche à obéir à Dieu. Comme dit Matthieu 7, chapitre 7, verset 21, « Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Or, la Bible met en garde à la fois contre les racines du mal écologique, hein, l'argent, la convoitise, l'orgueil, l'égoïsme, l'avidité et l'apathie, qui sont évoqués par Gus Spess, là, dans la diapositive que je vous ai montrée. Et par ailleurs, la Bible nous demande très clairement d'aimer Dieu de toute notre force, de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes. Or, aimer Dieu et laisser détruire sa création, c'est pas compatible. Et aimer son prochain et laisser détruire l'environnement, c'est pas non plus compatible à mon avis. Deuxième raison, la Bible nous demande aussi d'être le sel de la terre, d'avoir un rôle prophétique. Or, la Bible nous avertit des dangers de la pollution, à mon avis, dans l'Apocalypse. C'est imagé, mais je pourrais. Bon, là, j'ai pas le temps de développer, mais il y a un certain nombre de passages qui évoquent la pollution, la pollution de l'eau, les eaux qui deviennent amères, etc. Et ça nous avertit aussi sur le châtiment annoncé de ceux qui n'en s'en préoccupent pas, hein, parce qu'il y a un verset de l'Apocalypse quand même qui dit « Le temps est venu de détruire ceux qui détruisent la terre ». Apocalypse 11, 18. on est aussi, en tant que chrétien, on a un gros avantage, c'est qu'on prend au sérieux la réalité du mal. Donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport à un certain nombre de d'ornières chez un certain nombre d'écologistes et de marxistes, qui est donc qu'on n'a pas une espérance dans le fait qu'on peut sauver la planète. Et on peut aussi répondre aux attentes des contemporains préoccupés par les problèmes écologiques et qui sont en recherche spirituelle. À ce sujet, puisqu'on, je sais que David, tu es aussi responsable d'évangélisation, si l'Église ne se préoccupe pas de ces problèmes qui sont ceux qui préoccupent largement la société française contemporaine, eh ben, c'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup de jeunes qui quittent l'Église, ou même des moins jeunes, hein. Et ou alors qui vont se réfugier dans les spiritualités de type New Age, qui sont vraiment très permanents, qui pénètrent beaucoup tous les milieux écologiques. Voilà. Bon, alors on me demande de conclure, donc je vais peut-être pas aller au-delà. J'avais encore un certain nombre de points, mais qui ont déjà été pas mal abordés par Claude. Donc d'autres espérances dans le fait que, juste je vais dire mes titres, l'espérance chrétienne c'est aussi la bonne nouvelle, et c'est aussi que la bonne nouvelle n'est pas seulement pour l'homme mais pour tout le cosmos, hein, car Dieu a tant aimé le cosmos qu'il a donné son fils unique, c'est la traduction grecque, hein, c'est pas Dieu a tant aimé le monde ou Dieu a tant aimé Jean-François Mouhot qu'il a donné son fils unique, c'est Dieu a tant aimé le cosmos. C'est ça que dit le grec. On sait aussi que Jésus-Christ est l'origine et le soutien de la création, hein, dans Colossiens 1, 15 à 20, qu'a lu Claude tout à l'heure. Il y a tout un débat autour de la nouvelle terre, la terre renouvelée. Alors, est-ce que la terre va être détruite comme le croyait mon grand-père, ou est-ce qu'elle va être plutôt purifiée au travers du feu? D'ailleurs, pour moi, entretenir la terre comme on entretient, finalement, ce problème n'est pas très important dans le sens où je prendrai l'exemple du corps humain. Je terminerai vraiment là-dessus. Rassure-toi, Lydia. Si j'apprenais, je sais que je vais mourir un jour, mais ça ne m'empêche pas de faire en sorte que j'essaie d'être le plus en bonne santé possible. De la même façon, entendre des arguments qui disent la Terre va être détruite, donc ça sert à rien de s'en préoccuper, me paraît vraiment aberrant, parce que ça reviendrait à dire je sais que je vais mourir, donc je me préoccupe pas de ma santé d'une certaine façon. C'est aussi aberrant à mon avis. Voilà. Merci beaucoup.